Les cours du Collège de France, Hugues de T, chaire oncologie cellulaire et moléculaire.
Bonjour à tous. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite infection ORL et donc j'espère que ma voix ne sera pas troublée pendant ce cours. Donc, vous vous souvenez que dans le dernier cours, nous avions vu en détail les relations entre les alkylants et le stress oxydant, en particulier avec l'étude des relations entre le stress oxydant et le cisplatine. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'au fond, ces relations entre stress oxydant et alkylant n'est pas, entre stress oxydant et chimiothérapie n'est pas réduite aux alkylants, mais qu'il y a effectivement d'autres classes de produits qui ont les mêmes caractéristiques. Merci beaucoup. Et donc, nous avions terminé le cours précédent en disant qu'une autre classe extrêmement utilisée et connue d'anticancéreux sont les anthracyclines, donc des antibiotiques naturels, et que pour ces anthracyclines, plusieurs modes d'action ont été proposés sans qu'on ait pu vraiment trancher sur celui qui était ni le plus important dans la vraie vie, ni celui qui était responsable des effets anticancéreux. Parmi ceux-ci, il y a l'interférence avec la chaîne respiratoire, on verra tout à l'heure comment. Le modèle classique qui a été impliqué, y compris dans la toxicité, c'est l'action sur les topoisomérases. Et pour ceux d'entre vous qui ont suivi les cours des années précédentes, vous vous souvenez peut-être que ces anthracyclines sont capables de bloquer la topoisomérase 2. Et ce faisant, ils vont induire des cassures de l'ADN et par ailleurs créer des adduits covalents entre la molécule de topoisomérase 2 et l'ADN. Et également, ces agents, comme on va le voir dans un instant, sont des intercalants. Et cette capacité à rentrer dans la chaîne, dans la profondeur de la chaîne d'ADN, a des effets, entre autres, sur le contrôle de la transcription. Mais déjà, une des indications que l'explication classique par l'empoisonnement des topoisomérases n'est pas le seul mode d'action de cette classe de produits qui est extrêmement efficace et extrêmement utilisée en clinique, c'est qu'ils ont des effets beaucoup plus intenses que des inhibiteurs purs de topoisomérase 2 comme les toposides. Et non seulement ils ont des effets beaucoup plus intenses, mais en plus il existe des synergies entre les toposides, donc le prototype des inhibiteurs de topoisomérase, et les anthracyclines, ce qui suggère donc que tout ne passe pas par l'inhibition des topoisomérases 2, mais qu'il y a d'autres effets de cette molécule qui sont importants. Alors là encore, une diapo montrant la structure donc d'un des chefs de file de ce groupe de produits qui s'appelle la doxorubicine. Là, vous voyez ce grand cycle, cette grande juxtaposition de cycles oxygénés, et puis une chaîne s'apparentant à des sucres qui vont pouvoir rentrer en s'intercalant dans la molécule d'ADN, et même il a été proposé qu'il puisse y avoir des liaisons covalentes avec certaines bases dans certaines conditions. Mais historiquement, le premier modèle qui a été proposé, avant que l'on découvre l'effet sur les topoisomérases, c'est en fait la capacité de ces anthracyclines à se comporter comme des agents redox et donc d'être capable de capter un électron, de changer, vous voyez, l'état de cet atome d'oxygène va changer, et donc on va avoir un radical libre semi-quinone, et ceci au sein de la mitochondrie, en particulier au sein du complexe 1 de transport des électrons, va induire un stress oxydant aigu, ce stress oxydant aigu étant responsable de toutes sortes d'effets, potentiellement des dommages à l'ADN, des changements dans l'expression des gènes, désactivation aiguë de la fonction mitochondriale qui peut se traduire par un arrêt complet de la production d'énergie, voire par des mécanismes de ferroptose. ce qui a été bien montré dans des situations cliniques, c'est qu'il va y avoir une accumulation de fer dans les mitochondries. Et bien sûr, ça vous doit vous évoquer le cours sur la ferroptose, hein, en disant que l'accumulation de fer dans les mitochondries pouvait être à l'origine de cette mort induite par les anthracyclines. Et à cet égard, des travaux ont montré qu'il y avait une régulation de l'activité cytotoxique des anthracyclines dans des modèles de souris, par modulation du transport mitochondrial du fer, et que donc si on allait diminuer l'expression des transporteurs du fer dans la mitochondrie, on allait diminuer la toxicité aiguë induite par les anthracyclines. Donc ça, c'était le modèle classique, celui qu'on trouve dans tous les textbooks. Néanmoins, tous les textbooks disent qu'en fait, on ne comprend pas très bien et qu'il y a plusieurs modes d'action qui ont été proposés, dont on ne connaît pas la contribution relative aux effets de ce groupe de produits. Et puis plus récemment, un certain nombre d'équipes, dont la mienne, se sont intéressées à une autre anthracycline, donc un autre antibiotique naturel, très proche dans sa structure des autres, donc c'est la même famille chimique. Et cette molécule, pour des raisons historiques, est très largement utilisée en Extrême-Orient, c'est-à-dire en Chine et au Japon, entre autres pour le traitement des leucémies aiguës myéloïdes, comme on utilise en Europe la donorubicine pour le traitement de ces mêmes maladies. Et comme on va le voir, il y a un certain nombre de différences importantes entre cette molécule et le chef de file de cette famille, donc la donorubicine ou la doxorubicine, et en particulier, on va voir que ce produit induit beaucoup moins de cassures de l'ADN que la doxorubicine, qu'il n'induit pas d'insuffisance cardiaque, et l'insuffisance cardiaque, en réponse aux anthracyclines, est une complication majeure du traitement et qui est une contre-indication chez un assez grand nombre de patients dont l'état cardiaque conduirait à une insuffisance cardiaque en réponse à ce type de traitement. Il n'induit pas non plus de stérilité, ce qui suggère que ce produit, bien qu'actif, finalement est dépourvu d'un certain nombre des effets toxiques des autres membres de cette famille d'antibiotiques. Ce qui pose évidemment la question de la base de ces effets biologiques, et on va voir quelques éléments. Et comme d'autres produits, comme l'actinomycine D, qui est un autre antibiotique anticancéreux, il va y avoir des effets intercalants, en particulier des effets sur la synthèse des ARN ribosomiques, donc ces ARN produits dans le nucléole qui vont servir à la formation des ribosomes. Il y a, on va le voir, des modifications profonde de la chromatine et de l'expression des gènes qui traduisent probablement la capacité de ces molécules à être intercalantes. Et enfin, les travaux de l'équipe de Guido Kramer à Paris ont montré que ce type de molécule est capable d'induire une mort immunogénique et donc il contribuerait à une mort qui est capable d'activer le système immunitaire, ce système immunitaire permettant ensuite de contribuer à la réponse anticancéreuse. Alors voilà les structures des différents membres de cette famille. Les molécules classiques, la doxorubicine, la donorubicine, il y a également des équipes qui utilisent l'épirubicine, l'idarubicine. Vous voyez que ce sont des molécules extrêmement proches par leur structure. Et la clarubicine, dont vous voyez que le noyau central au fond est le même, et puis qu'il y a cette chaîne de sucre plus importante avec trois cycles qui sont associés. Et juste à titre d'exemple, on a représenté ici l'étoposide, donc inhibiteur pur cette fois-ci de l'activité des topoisomérases. Et ça, ce sont des travaux qui ont été publiés il y a quelques années par une équipe hollandaise dans PNAS. Quand on regarde maintenant des marqueurs, des cassures à l'ADN, des marqueurs de ce qu'on appelle le DNA damage, eh bien, comme par exemple une histone particulière qu'on appelle le H2AX, dans sa forme phosphoridée, eh bien, on voit que les inhibiteurs purs de topoisomérase comme l'étoposide, comme la doxorubicine, vont induire des dégâts massifs à l'ADN, alors que la clarubicine, elle, se comporte comme le contrôle, donc n'induit pas ces cassures de l'ADN. Et si on regarde un autre critère cette fois-ci, qui est la formation de la cassure de l'ADN, par exemple par des tests de COMET, eh bien on va voir là encore que des inhibiteurs purs de topoisomérase comme les toposides vont induire des cassures massives, alors que la clarubicine, elle, comme le contrôle, respecte l'intégrité de cette molécule d'ADN. Ce qui veut dire qu'effectivement, à travers ces observations, on s'écarte du modèle classique, si j'ose dire, dans lequel ce groupe d'antibiotiques, en fait, induit une toxicité relativement spécifique des cellules cancéreuses par l'intermédiaire de l'induction du DNA damage ou des cassures de l'ADN. Alors, ça, c'était dans des modèles cellulaires. Rien ne vaut la vraie vie, et donc la vraie vie, en l'occurrence, ce sont des modèles de souris. Modèles de souris pour lesquels on a pu inactiver un des deux allèles du gène P53. Ces souris sont donc extrêmement susceptibles au développement des tumeurs, parce qu'évidemment, il suffit qu'une cellule perde le deuxième allèle de P53 pour se mettre à proliférer rapidement et pouvoir être à l'origine de tumeurs. Et donc, dans cette expérience, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une induction, c'est la courbe en noir, le contrôle. Il y a une induction spontanée de tumeurs dans ce modèle, dont on a déjà parlé dans des cours précédents, montrant donc que la perte du deuxième allèle de P53 va s'accompagner du développement de tumeurs. Et si on traite avec des inhibiteurs de topoisomérase ou une l'anthracycline de référence, qui est la doxorubicine, vous voyez qu'on a une accélération extrêmement rapide du développement des tumeurs, traduisant certainement la capacité de ces molécules à induire des dommages à l'ADN, et que ces dommages à l'ADN vont favoriser la perte de l'allèle restante de P53. Et ce qui est tout à fait remarquable et très inattendu, c'est que la clarubicine, elle ici en bleu, eh bien au fond, elle se comporte tout à fait comme le contrôle, elle n'induit pas donc de développement de tumeurs in vivo, traduisant probablement le fait qu'elle est incapable d'induire de manière massive, à ses concentrations en tous les cas, des dommages à l'ADN. Alors la même expérience a été répétée avec maintenant un autre critère qui est l'existence d'anomalies cardiaques. On sait, et c'est encore une fois la limite d'utilisation clinique de ce type de molécule, que la doxorubicine et la plupart des anthracyclines induisent une insuffisance cardiaque, qui est, vous voyez, manifestée très rapidement ici, quelques mois après le début du traitement. Et un inhibiteur pur de topoisomérase ou la clarubicine n'ont aucun effet sur l'insuffisance cardiaque, traduisant donc la différence d'effet de ces deux types de molécules. Alors, je vous ai dit qu'il y avait une action sur la chromatine, traduisant certainement l'intercalation de la molécule dans l'ADN. Donc c'est un test en fait un petit peu complexe que je vais juste résumer pour vous. On utilise des cellules dont les noyaux sont marqués par une histone fluorescente et ensuite par des artifices de laboratoire, on est capable d'éteindre cette fluorescence, on est donc capable de détruire cette protéine par des rayons laser, ce qui explique que vous voyez ici des noyaux qui chacun sont coupés en deux du fait de cette action du rayon laser. Si on traite avec un inhibiteur pur de topoisomérase, en fait, il ne se passe rien. Il n'y a pas de changement au bout d'une heure. Par contre, si on traite avec de la doxorubicine, eh bien, on va voir que ces marquages vont disparaître parce qu'en fait, du fait de l'intercalation de la molécule d'antibiotique dans l'ADN, eh bien on va avoir un relargage des histones, ce qui veut dire que, au fond, cette fois-ci, maintenant, cette histone fluorescente va se distribuer dans l'intégralité du noyau, et donc elle va donc perdre en fluorescence ce qu'on voit ici. Et de manière tout à fait remarquable, vous voyez que la clarubicine fait exactement la même chose, c'est-à-dire que on va avoir une diffusion, finalement, un échange de ces histones à la suite de la capacité de ces antibiotiques à s'intercaler, comme on l'a vu dans l'une des premières images, au sein de la molécule d'ADN. Et on sait par des travaux antérieurs que ceci va créer du stress réplicatif et que ce stress réplicatif va être à l'origine de l'activation, de la transcription d'un certain nombre de gènes qu'on a appelés immediately. Ça, c'est une diapo que j'ai montrée dans un cours précédent, montrant donc, illustrant ce stress réplicatif par des mesures d'ouverture de la chromatine qu'on appelle l'attaque sec, peu importe. Vous voyez qu'en réponse, ici, un inhibiteur de topo 1, on va avoir une ouverture massive de la chromatine qui nécessite la présence de senseurs du stress réplicatif comme SNF11. Et ce stress réplicatif va être à l'origine de l'activation de ces gènes immediately. Donc vous allez me dire, pour l'instant, pas trop de réponses, pas trop de relations avec le stress oxydant, et vous avez tout à fait raison. Jusqu'à ces expériences, publiées récemment, montrant qu'en fait, la mort induite par la clarubicine, qui est représentée ici par ces noyaux qui s'allument en couleur bleue ou en couleur rouge, eh bien, cette mort immédiate induite par la clarubicine, elle va être bloquée par des antioxydants que vous connaissez bien maintenant, la N-acétylcystéine ou la vitamine E. Vous voyez qu'on a un effet immédiat sur la mort. Et par ailleurs, des données que je ne vais pas vous montrer ici montrent également que la clarubicine est capable de s'insérer dans la mitochondrie, peut-être, ça n'a pas été montré, mais de s'insérer dans l'ADN mitochondrial, et que cette intercalation pourrait être responsable donc de troubles très rapides du métabolisme redox qui sont réversibles sous l'effet de tampons redox. Alors de manière importante, et pas montrée ici, c'est qu'à ces concentrations-là, le N-acétylcystéine ou la vitamine E n'ont aucun effet sur la mort induite par la doxorubicine. Donc c'est un effet qui est propre, spécifique à cet antibiotique au sein de cette famille, suggérant donc un lien très fort avec les mitochondries et les ROS, et suggérant que c'est probablement par l'intermédiaire de cet effet sur le stress oxydant et pas sur l'ADN, pas sur les cassures de l'ADN nucléaire, que ces composés induisent ces effets thérapeutiques. Alors juste des courbes de survie sans rentrer dans les détails, mais je vous disais que cette molécule est en fait assez largement utilisée en Asie, aussi bien en Chine qu'au Japon, avec des résultats cliniques qui sont présentés comme comparables en fait à ce qu'on utilise en Occident. Néanmoins, comme toujours en médecine, eh bien, il faut qu'il y ait une comparaison directe qui soit effectuée à travers des essais cliniques qu'on appelle randomisés, pour lesquels on va donc tirer au sort les patients pour un ou l'autre des traitements et pouvoir ensuite, à l'issue de l'étude d'un nombre élevé de patients, voir s'il y a une différence statistique entre les deux types de molécules, sachant donc au moins l'une des molécules a l'énorme avantage de ne pas avoir ou d'avoir peu de toxicité comparée à l'autre, et en particulier pas cette toxicité cardiaque. Et il y a des travaux effectivement qui montrent que même après une première exposition cardiotoxique à la doxorubicine, eh bien on peut reprendre le relais avec la clarubicine sans aggraver la situation. Bon, donc en conclusion, ce que ça veut dire, c'est qu'au fond, la pharmacologie des anthracyclines mérite d'être à nouveau explorée avec des outils peut-être plus modernes pour savoir quel est au fond, parmi tous les effets qui ont été décrits, quel est celui qui est à l'origine de la réponse thérapeutique. Et déjà, on peut dire que les dommages à l'ADN qui constituaient une des explications classiques de l'activité de ces produits n'expliquent pas tous les effets thérapeutiques, ils expliquent peut-être en revanche un nombre important d'effets secondaires, et ces nouvelles molécules à effet dissocié pourraient avoir en fait une importance clinique avec, à travers un ciblage mitochondrial et un effet également sur le stress oxydant. À noter qu'il y a également des travaux que je ne présente pas ici, mais qui ont montré une interférence avec la transcription des ARN ribosomiques à travers le blocage de la polymérase 1, comme un autre produit dont on a parlé dans un cours précédent, qui est un autre antibiotique qui s'appelle l'actinomycine D, et dont il a été montré qu'il avait, entre autres par des travaux du laboratoire, qu'il avait un effet antileucémique à travers donc, ce contrôle de la transcription des gènes, et également qu'il avait des effets sur le comportement mitochondrial. Alors, ça n'est pas tout, il y a d'autres produits dont on va parler rapidement, comme le 5FU, 5-fluorouracil. 5-fluorouracil, ça a été considéré pendant longtemps comme l'un des prototypes des nucléotides anormaux qui allaient s'intégrer donc dans la molécule d'ADN, bloquer la synthèse de l'ADN et induire donc par le même du stress réplicatif. Alors, il a été montré qu'il existe une dépendance dans un papier classique, déjà ancien, mais vraiment très important, qui a étudié sur des lignées cellulaires l'effet de l'inactivation de P53 ou de P21. Et ce que montrait cet article, c'est qu'au fond, eh bien, c'était un peu une réponse à la carte. C'est-à-dire que si on prend une anthracycline comme l'adriamycine, eh bien, la perte de P53 va sensibiliser à la mort immédiate en réponse à cette anthracycline. Inversement, si on prend un antimétabolite, ou quelque chose qui était essentiellement vu comme un antimétabolite, comme le 5FU, là, c'est exactement l'inverse. L'inactivation de P53 va conduire à un blocage complet de l'apoptose, ce qui veut dire qu'il faut absolument P53 pour induire cette apoptose immédiate. Et donc, ces auteurs, c'est l'équipe de Bert Vogelstein à Johns Hopkins, ont donc, de manière très logique, puisqu'on avait une mort qui était entièrement P53 dépendante, vous voyez, avec une énorme différence entre finalement, en l'absence de P53, aucune mort, en présence de P53, une mort pratiquement complète, eh bien, il est relativement facile de chercher ensuite quels sont les gènes cibles de P53 qui pourrait contribuer ou réguler la mort, et c'est ce qu'ont fait ces auteurs dans ce papier de Nature Medicine publié il y a 25 ans. Et finalement, ce qu'ils trouvent, c'est que ces gènes induits par le 5FU, de manière P53 dépendante, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a même un relativement petit nombre. L'un d'entre eux est très connu, hein, c'est l'inhibiteur de cycle P21 qui est probablement le gène le plus sensible à la variation de dose de P53 dans les cellules. Et ils se sont intéressés, au fond, à cette protéine, la ferredoxine réductase, qui, comme vous pouvez le voir ici, est en fait régulée de manière extrêmement forte en présence de P53 et quasiment pas régulée en l'absence de P53. C'est donc un gène cible primaire très très dépendant de P53 pour son induction en réponse au 5FU. Et ce que ces auteurs ont pu retrouver, c'est qu'au fond, ce gène, en abrégé FDXR, est un gène mitochondrial. C'est un gène qui participe à la formation des clusters fer-soufre au sein de la mitochondrie, donc c'est un gène qui va être extrêmement important pour la régulation du stress oxydant. Et c'est un gène pour lequel l'effet de dose est extrêmement important, c'est-à-dire que la surexpression est très toxique et va conduire à l'apoptose. C'est probablement ce qui se passe quand on traite au 5FU et que l'on induit la transcription de ce gène. Mais à l'inverse, c'est un gène essentiel chez la levure et également essentiel pour les cellules de mammifères. Si on inactive complètement ce gène, eh bien, les cellules ne poussent plus. Donc un gène, vous voyez, dont la dépendance en termes de dose est très importante. S'il n'y en a pas, la cellule meurt, et s'il y en a trop, la cellule meurt aussi. Et ils ont eu beaucoup de chance, en fait, parce que dans la lignée cellulaire qu'ils utilisaient, qui est une lignée de cancer colique, en fait, il y a trois copies du gène, ce qui leur a permis de réaliser, en fait, des inactivations séquentielles et de bloquer deux des trois copies du gène. Et si on ne bloque qu'une copie, il ne se passe rien. Si on bloque les trois copies, les cellules meurent. Et si on a finalement cette hypomorphe dans laquelle on a réduit le dosage génique d'un facteur 3, eh bien on va avoir cette fois-ci une réponse extrêmement claire avec un stress oxydant majeur induit par le 5-FU. Et en l'absence de P53, ou avec une diminution du dosage génique de cette protéine FDXR, eh bien, on a cette fois-ci plus de stress mitochondrial observé. Ce que ça veut dire, donc, c'est que ce 5-FU, dont on avait longtemps pensé qu'il était essentiellement un antimétabolite, qu'il allait bloquer la synthèse de l'ADN, en fait, il a également un rôle absolument majeur sur la production de ROS, et que par ailleurs, cette production de ROS est liée à la mort, puisque vous voyez dans les cellules parentales, on va avoir des dégâts importants. Et compte tenu du rôle de cette protéine dans le stress oxydant, eh bien, les auteurs ont cherché à voir si cette mort induite par le 5-FU pouvait être modulée par des antioxydants. Et sans rentrer dans les détails, ils ont pu montrer qu'effectivement c'était le cas, à condition que ces antioxydants soient ciblés sur la mitochondrie. Donc on couple ces antioxydants à un signal d'adressage vers la mitochondrie qui va permettre le sauvetage finalement des anomalies redox induites par le traitement au sein de la mitochondrie. Et qui plus est, donc ça c'est un premier critère qui est la mort immédiate. Cette mort immédiate va rendre compte évidemment d'une partie de la toxicité, et ils ont également regardé un autre critère plus stringent qui est la capacité à pousser ce qu'on appelle le pouvoir clonogénique. Et vous voyez que dans les contrôles, eh bien, on a des petits clones, ce qui veut dire que ces cellules, une cellule est capable de donner naissance à une colonie, et qu'en revanche, si on traite au 5-FU, eh bien, plus rien ne pousse, hein, ce qui traduit bien... La mort de ces cellules. Et donc, avec un antioxydant ciblé vers la mitochondrie, hein, donc on a appelé MitoQ, ce qu'ils voient, c'est qu'ils sont capables de sauver complètement ces cellules de la mort induite par le 5-FU, démontrant donc de manière extrêmement forte que c'est à travers le contrôle du stress oxydant que ce médicament, et non pas de la synthèse de l'ADN, que ce médicament va permettre l'arrêt de la croissance, et on va récupérer complètement cette croissance avec des antioxydants. Donc un changement de paradigme vraiment très important qui explique que ces travaux aient été publiés dans Nature Medicine. Donc en conclusion, le 5-FU va induire à travers l'activation de P53 l'induction de ce gène FDXR qui va contrôler l'apoptose immédiate via la production de ROS mitochondriaux. Néanmoins, ni l'activation de P53 ni celle de FDXR ne vont permettre la croissance clonogénique, ce qui veut dire qu'en dehors de cette mort immédiate qu'on a examinée jusqu'à présent, il y a d'autres formes de ralentissement du cycle qui vont empêcher la croissance de ces cellules. Néanmoins, si on met un inhibiteur de ROS mitochondriaux, eh bien on va récupérer complètement la survie et la croissance, même avec le 5-FU, et ces cellules vont être capables maintenant de soutenir une croissance en présence de cet inhibiteur des métabolites. Ce qui suggère le modèle qu'au moins dans cette situation, hein, qui était des lignées de cancer colique, eh bien, les dommages à l'ADN auraient un rôle essentiel pour l'induction de la signalisation P53, mais que secondairement, l'induction de la signalisation P53 va faire appel, à travers l'induction de cette protéine FDXR, à une induction de stress oxydant aigu dans la mitochondrie qui va contrôler la croissance à long terme. Donc vous voyez que c'est un profond changement de paradigme, hein, entre cette idée de bloquer la synthèse des acides nucléiques et cette idée de changer de manière aiguë le contrôle du stress oxydant. Mais les choses sont encore un peu plus compliquées. Dans l'un des cours précédents, vous vous rappelez que au moment du contrôle de la ferroptose, je vous ai dit qu'il y avait également un gène qui est la DHFR, la dihydrofolate réductase, qui est importante pour le contrôle de la ferroptose. Et ça, c'est, sans rentrer dans les détails, c'est ce cycle du folate. Cette enzyme, la dihydrofolate réductase, qui est ciblée par un anticancéreux, un des tout premiers anticancéreux qui a été mis au point, qui est le méthotrexate. Et par ailleurs, le 5-FU cible la thymidylate synthase, cette enzyme-là, qui va être responsable donc du passage de l'UMP au TMP, pardon, pour donner donc les précurseurs de nucléotides. Et donc, vous voyez qu'on retrouve finalement lié à tout ce contrôle du cycle redox, deux anticancéreux majeurs dont on avait pensé pendant longtemps qu'ils étaient principalement actifs pour la synthèse de nucléotides. C'est le modèle classique, en disant qu'au fond, quand on bloque cette chaîne, on va bloquer du coup l'action de la thymidylate synthase et empêcher la synthèse de nucléotides. Mais en fait, il y a d'autres explications possibles, et en particulier, le 5-FU va bloquer cette enzyme. Bloquant cette enzyme, il va bloquer tout ce cycle, et donc bloquer la capacité de fabriquer des antioxydants, et en particulier un antioxydant dont on a rapidement parlé au moment du cours sur la ferroptose, qui s'appelle BH4, et qui est un inhibiteur puissant de la ferroptose. Et également, toute cette chaîne, vous voyez à la fin, va conditionner la synthèse de la cystéine, dont vous vous souvenez qu'elle est l'une des pièces maîtresses de la fabrication du glutathion. Et donc, on est en train aujourd'hui de réfléchir à une nouvelle vision, finalement, là aussi, de cette pharmacologie, avec des médicaments qui sont très largement utilisés, des médicaments qui sont actifs, qui guérissent des patients, dont on avait pensé, au fond, que la cible était la synthèse de nucléotides, mais qui pourrait, en plus de ce métabolisme des nucléotides, avoir un rôle fondamental sur le contrôle du redox à travers donc la capacité d'entretenir ces chaînes métaboliques et de synthétiser des dérivés qui sont comme le BH4, qui sont directement synthétisés sous l'effet de la dihydrofolate réductase. Alors la comparaison ne s'arrête pas là. Vous voyez que dans cette pharmacologie revisitée des anticancéreux, on s'est également intéressé aux dérivés qui sont capables d'interagir avec les microtubules. La molécule historique, c'est la vincristine, hein, qui a cette structure extrêmement compliquée. C'est une diapo prise d'un de mes cours précédents, et qui montre bien le rôle du hasard dans la médecine, puisque cette molécule a été en fait isolée à partir d'un crible dans lequel on se proposait de chercher des antidiabétiques. Et en cherchant à trouver un antidiabétique, on a en fait trouvé un très puissant anticancéreux qui va inhiber la polymérisation de la tubuline. Et donc le modèle simpliste qui avait été proposé à l'époque, c'est que l'inhibition de la synthèse de la tubuline va empêcher le déroulement de la mitose. Néanmoins, on s'est assez vite aperçu que ces produits sont également très neurotoxiques. On s'est dit, mais au fond, le neurone, c'est une cellule qui a du prolongement extrêmement important, et donc les transports intracellulaires qui nécessitent des microtubules sont également importants. Et puis, ça s'est tiré d'une revue un peu plus récente, on s'est aperçu que les microtubules que vous voyez représentés ici en bleu, en fait, ils ont des tas de fonctions. Bien sûr, la fonction historique, qui est celle à laquelle on avait pensé au départ, c'est la mitose et le cycle cellulaire, mais il y a également des fonctions extrêmement importantes sur l'intégrité de l'ensemble de la cellule, le style primaire, le transport neuronal, le transport intraflagellaire, la motilité cellulaire et d'autres. Et puis, on s'est aperçu, ça c'est des travaux d'il y a une vingtaine d'années, qu'en fait, un dérivé bien connu qui inhibe la polymérisation des microtubules, qui s'appelle le Taxol, très largement utilisé en clinique aussi, et bien ce Taxol est capable d'induire des ROS, et ce, de manière extrêmement puissante. Et sans entrer dans les détails, on s'est aperçu qu'en fait, la polymérisation des microtubules était très importante pour la stabilisation d'une protéine qui s'appelle RAC1, qui est un cofacteur des NADPH oxydases. Et donc, en traitant des cellules de taxol, au fond, on va activer les NADPH oxydases, et ces NADPH oxydases vont se mettre ensuite à créer la cascade habituelle de radicaux aux deux points qui vont être secondairement transformés en oxygénés. Cet oxygéné étant capable, et c'était le but de ce papier, de fonctionner à distance. Et effectivement, très bonne indication dans ces travaux du rôle du stress oxydant dans la toxicité du taxol, c'est que cet effet du taxol passant par la production d'espèces oxygénées, eh bien, elle va être modulée par la superoxyde dismutase ou par la catalase, qui vont donc respectivement favoriser ou détruire ces radicaux oxygénés. Et ces travaux donc soulignaient le fait que au fond, dans beaucoup de situations, certaines chimiothérapies, et ça semble être le cas du taxol, ne diffusent pas forcément très bien au-delà des vaisseaux. Ils vont pouvoir diffuser donc un petit peu à partir du vaisseau, mais par contre, l'oxygéné qui est produite en réponse au taxol, l'oxygéné, elle, est capable de diffuser beaucoup plus profondément, et ça pourrait expliquer donc une partie au moins de l'efficacité de ce groupe de molécules. Donc, en conclusion pour cette partie, j'espère vous avoir convaincu que de très nombreuses classes de molécules de chimiothérapie utilisées en clinique, en fait, favorisent la production des espèces dérivées de l'oxygène, des ROS, et que ceci participe à leurs effets thérapeutiques, ce qui oblige au fait de revisiter cette pharmacologie classique qui était essentiellement ciblée sur la synthèse de l'ADN, la capacité de répliquer l'ADN par toutes sortes de méthodes, mais qu'il y a probablement une autre facette dans l'histoire qui passe par la création de stress oxydant. Et donc, ces chimiothérapies ne ciblent pas seulement la synthèse ou l'intégrité de l'ADN, et ce ne sont pas seulement les altérations de l'ADN qui en découlent, qui vont être responsables de la mort des cellules cancéreuses. Alors, au-delà de ça, figure prise dans une très brillante revue de Chris Marin, qui examine donc les différents types de mécanismes associés à la résistance au traitement anticancéreux. Et les modèles classiques, au fond, étaient des modèles génétiques. C'est ce qu'on observe dans les résistances, par exemple, aux thérapeutiques ciblées, où on a, au fond, soit préexistantes, soit induites par le traitement, des cellules qui vont présenter une mutation, donc une inactivation génétique, sur la cible du médicament, typiquement sur une kinase qui est visée par un inhibiteur de kinase. Et donc, sous l'effet de la pression de sélection induite par le médicament, eh bien, ces cellules mutées, ici en orange, vont s'expandre et finalement contribuer à la résistance thérapeutique. Encore une fois, que la mutation soit préexistante ou que la mutation soit éventuellement induite par le traitement. Et donc, à côté de ces mécanismes classiques qui existent et qui sont extrêmement bien documentés, ce que cette étude propose, c'est qu'il va y avoir d'autres types de résistance qui peuvent être induites par ce qu'il appelait le transcriptional priming, c'est-à-dire une modification, par exemple, épigénétique, qui va conduire à un changement de la sensibilité de la cellule à un médicament, conduisant donc au moment de la résistance à un enrichissement de ces cellules modifiées épigénétiquement. L'autre manière de présenter le même concept est de dire qu'il peut exister une plasticité et que donc en réponse à un traitement, il va y avoir un mécanisme de dédifférenciation et cette cellule au fond qui est bipotente, qui a possibilité de se développer, vous voyez, soit du côté plutôt bleu, soit du côté plutôt jaune, cette plasticité va induire une adaptation transcriptionnelle, et cette adaptation transcriptionnelle va conduire à l'expansion de cellules résistantes. Donc, parmi les mécanismes, on peut citer la diversité épigénétique et puis la plasticité cellulaire. Et À la lumière de ce que je vous ai présenté, eh bien, l'adaptation métabolique, et en particulier l'adaptation métabolique au stress oxydant, fait partie de ces mécanismes adaptatifs qui pourraient être développés pendant le traitement. Et à cet égard, en réponse aux oxydants, il y a un phénomène qu'on a appelé le priming des oxydants, qui est bien connu chez les plantes, qui fait qu'une plante, et par extension d'autres types de cellules qui a été exposée à des très fortes concentrations d'électrophiles ou d'oxydants, va développer une empreinte durable, probablement épigénétique, faisant qu'elle est capable de résister à des expositions secondaires. Et ceci, encore une fois, est très connu chez les plantes et a été fait l'objet d'essais d'utilisation pour induire une résistance à la sécheresse, en se disant qu'en particulier des graines qui auraient été exposées à un stress oxydant donneraient des naissances ensuite à des plantes adultes qui seraient beaucoup plus résistantes à la sécheresse, puisque la sécheresse va s'accompagner de stress oxydant. Et donc, quelle est la nature exacte de cette adaptation métabolique? Eh bien, on en connaît quelques exemples, ça peut être des modifications épigénétiques. Effectivement, on connaît un certain nombre de modifications épigénétiques qui sont induites par le stress oxydant. Il a été décrit récemment une modification des histones par des glutathions. Il y a des enzymes comme les DNA méthyltransférases dont on sait qu'elles sont régulées par l'exposition à des ROS mitochondriaux. Donc il y a déjà un certain nombre de boucles de régulation qui sont connues qui pourraient donner naissance à des phénomènes d'adaptation. Et puis juste une illustration dont j'ai parlé dans un cours précédent mais qui traduit bien donc ces mécanismes, c'est l'adaptation par les mitochondries. Des travaux de l'équipe de Jean-Emmanuel Sarry, qui montrent que dans des cellules leucémiques, l'exposition à un anti-métabolite, qui est un dérivé de cytosine, l'aracée, eh bien, va conduire à une réponse mitochondriale. Donc ce stress par ces nucléotides modifiés va s'accompagner d'une accumulation de mitochondries, qui est mesuré ici, et cette accumulation de mitochondries va s'accompagner d'une induction des ROS. Et ce que Jean-Emmanuel Sarry a pu montrer dans ses travaux, c'est qu'au fond, dans des situations cliniques chez des patients, eh bien, l'existence de cette adaptation qui va se traduire par une hyperactivation de la chaîne mitochondriale et du métabolisme OXPHOS, eh bien, est un facteur qui est très fortement associé à la résistance à la chimiothérapie conventionnelle dans ces leucémies. Et donc, dans cette adaptation non génétique, la capacité de relancer finalement la production mitochondriale et la production d'énergie venant des mitochondries fait partie de ces mécanismes de résistance à la chimiothérapie. Et dans les mêmes travaux, ce qu'il a pu montrer, c'est que ces mitochondries, au fond, stressées, qui vont se multiplier pour essayer de faire que la cellule survive, elles vont utiliser la capture des acides gras et la bêta-oxydation des acides gras comme manière de récupérer leur énergie. Et ceci se traduit en réponse à l'exposition à cet anticancéreux par une très forte augmentation du récepteur CD36, qui est le récepteur qui va permettre la reconnaissance et la capture des acides gras à l'intérieur de la cellule et qui va donc permettre de brûler finalement ces acides gras au sein de la mitochondrie pour que la mitochondrie et la cellule puissent survivre. Et effectivement, la preuve qu'il s'agit là d'un mécanisme d'adaptation, c'est que si on bloque de manière spécifique cette bêta-oxydation des acides gras avec un inhibiteur, eh bien, on va conduire à une augmentation très forte de la mort cellulaire parce que ces cellules ne seront plus capables de métaboliser les acides gras pour subvenir à leurs besoins métaboliques. Et donc encore un mot sur l'adaptation avec ce priming par des antioxydants, encore une fois qui est observé avec beaucoup d'électrophiles et qui se traduit par le fait qu'une première exposition, éventuellement une exposition forte, va modifier ensuite très durablement, éventuellement sur toute la vie de la cellule ou de l'organisme, les profils de réponse ultérieure et conduire à une résistance au stress oxydant. Et effectivement, dans des situations cliniques, on sait que la sensibilité à la chimiothérapie diminue avec les expositions répétées. Et une des interprétations possibles pourrait être l'existence d'une adaptation, finalement, à long terme, d'un priming de ces réponses antioxydantes induites par la chimiothérapie. Il y a, donc ça, c'est évidemment la facette, le versant réponse thérapeutique. Il y a un autre versant, c'est qu'il y a des liens forts avec l'environnement et des stress induits par l'environnement. Et donc, un certain nombre de travaux aujourd'hui cherchent à définir, au fond, ce que pourrait être un exposome, qu'est-ce qu'on a comme trace objectivement mesurable d'exposition à des oxydants dans toute la vie. Est-ce qu'on peut arriver à mesurer, au fond, par des techniques biochimiques ou génétiques ou épigénétiques, l'existence d'une exposition, éventuellement longtemps avant, à des oxydants forts qui pourraient conduire ensuite soit à faciliter le développement de certaines tumeurs, soit à diminuer leur sensibilité thérapeutique. Il y a beaucoup de recherches, il n'y a pas encore de miracle dans ce domaine-là, mais ce sont des champs d'investigation extrêmement actifs qui suggère effectivement que cette exposition aux oxydants a un rôle important. Alors, puisque on a vu qu'il y avait parmi les agents thérapeutiques beaucoup d'agents qui induisent du stress oxydant, quels vont être les effecteurs d'aval ? Alors, de toute évidence, la ferroptose est un mécanisme majeur, puisque vous avez vu que ce type de mort est réglé par un effondrement transitoire des systèmes de protection contre cette oxydation lipidique induite par le stress oxydant. Mais il y a également d'autres formes de mort, comme l'apoptose, qui vont être extrêmement ROS-dépendantes. Et une des difficultés, c'est qu'au fond, toutes ces voies sont connectées. On a vu que il y avait des connexions très fortes entre P53 et NRF2, qui sont les deux les plus connus, sont les plus connus parce qu'en fait, on est capable de typer de manière raisonnablement simple, et on y reviendra à la fin du cours, le statut NRF2 ou le statut P53. Donc on sait, face à une tumeur donnée, quelle va être sa dépendance de ces systèmes de protection, mais tout est profondément interconnecté, ce qui rend l'interprétation difficile, et puis ça dépend, comme toujours, du type tumoral et du type de traitement. Néanmoins, et c'était une des volontés de ce cours, il y a deux facteurs qui sont très bien connus maintenant, connus au niveau des mécanismes, validés au niveau de l'importance dans des conditions physiopathologiques, c'est P53 et NRF2. Et on l'a vu, et on va le voir encore, qui jouent un rôle extrêmement important dans la réponse à de nombreux types de thérapies. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont plus difficiles à apprécier dans un contexte clinique, et en particulier le niveau d'activation de la voie NRF2. Lorsqu'il n'y a pas de mutation de NRF2 ou pas de mutation de KEAP1, c'est quelque chose qui n'est pas très facile à déterminer. Dans un des cours précédents, je vous ai montré une immunohistochimie montrant la détection de la protéine NRF2 dans un échantillon tumoral. Ça peut être une manière d'essayer d'aborder la signalisation. Ce sont des expériences qui ne sont pas toujours très faciles à quantifier. Connaître finalement en dehors d'un contexte de mutation l'état d'activation à un moment donné de la voie NRF dans une tumeur, c'est probablement quelque chose d'extrêmement important, mais ce n'est pas quelque chose qui est facile à établir, au moins avec les outils dont on dispose aujourd'hui. Diapo que j'ai montré dans le premier cours, P53, de toute évidence, il y a plusieurs méthodes par lesquelles P53 peut être contrôlé par le stress oxydant à travers, on l'a vu, l'oxydation d'un de ces régulateurs d'amont qui est ATM, l'activation de la voie des MAP kinases, peut-être, c'est pas encore très bien connu ou compris, à travers l'oxydation de cystéine spécifique de la protéine P53 elle-même, tout ceci conduisant à l'activation de P53. Et puis, parce que c'est un des thèmes d'étude du laboratoire, il y a également une protéine qui est importante, qui est la protéine PML, qui a un rôle d'échafaudage sur la réponse P53 en concentrant P53 et l'ensemble des protéines qui sont capables de la modifier pour l'activer au sein d'un tout petit compartiment du noyau qu'on appelle les corps nucléaires PML. Et l'assemblage de cette protéine PML, on sait qu'il est directement réglé par le stress oxydant. C'est donc d'ailleurs une des méthodes indirectes qu'on peut avoir pour déterminer le stress oxydant intracellulaire. Et effectivement, on sait que P53 est indispensable à la sénescence induite par l'expression d'oncogène, qui est un des phénotypes dont on sait qu'il est extrêmement sensible au stress oxydant. Et donc, il existe des relations multiples entre P53 et le stress oxydant, avec des régulations directes, comme l'oxydation des cystéines de P53, ou des mécanismes indirects faisant par exemple appel à PML. Et puis l'activation des gènes cibles de P53 va avoir un effet majeur. On a vu des effets majeurs sur le métabolisme à travers, entre autres, la capture des cystéines ou à travers le métabolisme du NADPH, qui vont conduire à la régulation du NADPH. Également, on a mentionné la glutaminolyse, qui vont contrôler les ROS. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des signalisations croisées. Effectivement, on sait que P53 peut contrôler la voie NRF2, entre autres à travers l'induction de P21 et de PML. Et il va y avoir des réponses multiples qui vont dépendre de la cellule d'origine, avec en particulier une apoptose mitochondriale, la ferroptose, la sénescence, l'arrêt de cycle. Et comme on l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, l'absence de P53 dans une tumeur donnée, du fait d'une mutation, va avoir des effets absolument majeurs sur le métabolisme des radicaux oxygénés, comme sur la réponse à des thérapeutiques anticancéreuses. Influence majeure dont vous vous souvenez qu'elle peut être dans un sens ou dans l'autre. Il y a certaines situations pour lesquelles P53 va favoriser la réponse thérapeutique. Il y a d'autres situations pour lesquelles l'absence de P53 va favoriser la réponse thérapeutique. Et puis un élément qui semble important, on y reviendra plus tard dans le cours, c'est qu'il va y avoir également le contrôle de l'import de la cystine qui a un rôle essentiel de régulateur négatif de la ferroptose. Alors, parmi les effecteurs d'aval, eh bien, il y a bien sûr la ferroptose avec l'ensemble des éléments régulateurs dont on a déjà parlé dans les cours précédents, le métabolisme du fer, puisqu'il faut du fer ferreux pour pouvoir induire cette réaction d'oxydation des lipides, le type de lipides membranaires insaturés, polyinsaturés ou monoinsaturés, qui va favoriser l'oxydation donc, et le changement de fluidité des membranes, et puis les systèmes de protection avec cet import de cystine par le système X permettant de générer du glutathion, et les modulateurs les plus classiques de la ferroptose. On a parlé de GPXA, mais aussi tout à l'heure de DHFR, FSP1, toutes protéines qui vont permettre, à travers le contrôle du stress oxydant, de neutraliser l'oxydation des lipides et de s'opposer à la mort par ferroptose. Alors, je voudrais vous toucher quelques mots maintenant de ces traitements historiques de l'utilisation de la vitamine C à très forte dose. Et quand on parle de très forte dose, là, c'est des doses dans lesquelles la vitamine C est donnée par voie intraveineuse, parce qu'il faudrait prendre des centaines de cachets tous les jours pour arriver à avoir ces doses-là. Et au fond, Linus Pauling, qui a fait ses travaux à la fin de sa vie, Linus Pauling, qui avait eu le prix Nobel de chimie quelques années avant, avait pu montrer que des doses extrêmement fortes de vitamine C avaient en fait des effets transitoires, mais des effets réels anti-tumoraux. Alors, à vrai dire, quand il a publié ses travaux il y a une cinquantaine d'années, beaucoup de gens se sont dit, bon, certes, c'est un prix Nobel, mais il est un peu vieux, et quand on est un peu vieux, on peut parfois publier des bêtises. Et donc tout ça est tombé un peu dans l'oubli. Ça paraissait hallucinant hein, qu'on puisse, avec une vitamine que des centaines de millions de personnes prennent tous les jours, qu'on puisse avoir un effet anticancéreux. Et pourtant, quand on regarde des données, ben, les données avaient une bonne tête. C'est-à-dire qu'ici, vous avez en pointillé les patients qui avaient été traités, et en colonne hachurée, ceux qui n'étaient pas traités. Vous pouvez voir malheureusement que chez ces patients qui avaient des tumeurs très avancées, ils mouraient assez vite, et que chez ceux qui avaient pu bénéficier d'un traitement par ces très fortes doses de vitamine C, eh bien, la survie était prolongée, même si, à vrai dire, il n'y avait pas de guérison à ce stade, ce qui posait la question des bases moléculaires de cet effet. Et on va voir qu'aujourd'hui, les bases moléculaires présumées de cet effet passent par un contrôle du stress oxydant. Et ça a été récemment revu dans un article d'opinion dans Nature Reviews par des scientifiques tout à fait éminents qui, quasiment 50 ans après, se sont ressaisis de cette question de la vitamine C à dose thérapeutique pour essayer de comprendre, au fond, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que Linus Pauling avait vu, parce qu'il n'avait pas rêvé. Et on va voir que ce qu'il a pu voir, c'est un effet de manipulation active, aiguë, du stress oxydant, et peut-être également des contributions à une reconfiguration épigénétique et à un contrôle de signalisation spécifique comme l'hypoxie ou l'épigénétique. Alors donc, un schéma sans rentrer dans les détails qui vous montre qu'à très forte dose de vitamine C dans le sang, eh bien, on va modifier l'état d'oxydation du fer, on va passer sous l'état de fer ferreux, et ce fer ferreux circulant va permettre la création de radicaux oxygénés directement en extracellulaire, avec en particulier de l'eau oxygénée, H2O2, qui va être, vous rappelez qu'elle est capable de traverser les membranes, et donc elle va rentrer dans la cellule, et sous l'effet là encore du fer ferreux, elle va donner ces radicaux OH- qui vont conduire à de la ferroptose. Et puis, en périphérie et en accompagnement de la modification vers le fer ferreux, on va avoir un dérivé de la vitamine C, donc DHA, qui, elle, contrairement à la vitamine C, est très activement et très efficacement internalisée dans la cellule par l'intermédiaire des transporteurs du glucose, qui va être à nouveau réduite en ascorbate et qui va du coup conditionner l'épuisement du tampon de glutathion intracellulaire. Et donc, finalement, par cet épuisement du glutathion intracellulaire, on va induire des ROS de manière absolument massive. En fait, avec cet antioxydant donné à des doses 1000 fois plus élevées que celles qui devraient être normalement circulantes, eh bien cet antioxydant en fait se comporte comme un oxydant. Il va imposer son pouvoir redox à l'ensemble de la cellule, et ça s'accompagne d'une production massive de ROS qui, aujourd'hui, on le pense, serait à l'origine de cette réponse transitoire. Et puis il y a d'autres types de réponses. Là, toujours la même chose, hein, la vitamine C ascorbate va agir sur l'état du fer et donc va faire passer le fer ferrique en fer ferreux, qui va être sa forme active. Et donc ceci va conduire à l'activation de toute une classe d'enzymes, en particulier ces enzymes TET, qui vont être responsables de la déméthylation de l'ADN. On va donc avoir un effet épigénétique extrêmement profond sur ces cellules, en effaçant donc les marques de méthylcytosine. Et ceci est important parce que certaines de ces enzymes TET, comme TET2, sont des gènes qui vont être mutés, en particulier dans certaines formes de leucémie. Et on a pu voir sur certains modèles de leucémie chez la souris qu'effectivement, on allait avoir une réversion finalement de ces anomalies induites par la mutation de TET2 dans ces systèmes. Et puis, on sait que dans des cellules extrêmement immatures, comme les cellules ES, la vitamine C à très forte dose va induire une reprogrammation vers un état plus jeune, ce que les Anglais appellent « rejuvenation », et ceci va donc s'accompagner d'une reprise du trophisme, de l'efficacité d'un certain nombre de cellules, et ça a été proposé, entre autres, dans des cellules immunes, où ces cellules immunes vont retrouver une jeunesse qui va leur redonner une capacité à s'opposer à la tumeur. Et puis, dernière illustration, c'est un facteur de transcription très important, HFIA-alpha, qui va permettre finalement la détection du taux d'oxygène, et ça passe par des mécanismes qui font appel à l'oxydation de résidus de proline réglés par le fer, par l'ascorbate, par l'oxygène, conduisant donc à ces modifications protéiques qui vont s'accompagner du recrutement d'une enzyme qui s'appelle VHL, conduisant à la dégradation par la protéolyse de ce facteur de transcription. L'élucidation du mécanisme de cette régulation du contrôle de l'oxygène a valu le prix Nobel il y a quelques années, entre autres à Bill Kaelin. Eh bien, on sait que ce mécanisme-là est très dépendant du taux d'ascorbate, du taux d'oxygène et de l'état du fer. Et donc, on a pu montrer que des doses extrêmement fortes d'ascorbate, de vitamine C, allaient s'accompagner d'une modification de cette signalisation. Et ceci est important en particulier dans les tumeurs rénales pour lesquelles cette hyperactivation de la voie HIF1-alpha est centrale à la prolifération. Donc voilà trois pistes. On ne sait pas encore laquelle de ces trois pistes est responsable de cet effet, mais c'est encore une illustration du fait que de contrôler finalement l'état du redox in vivo va pouvoir avoir un bénéfice clinique, même s'il n'est que transitoire. Je voudrais finir en parlant rapidement de la radiothérapie, parce qu'en fait, je crois que le sujet est suffisamment important et j'en reparlerai probablement dans le cours de l'an prochain, mais je voulais vous donner une rapide illustration de ces relations qui existent et qui sont maintenant bien prouvées entre stress oxydant et radiothérapie, avec des impacts cliniques dont on verra quelques illustrations. Donc, à titre historique, évidemment, il s'agit du premier type de traitement loco-régional des cancers, mis au point, pas très loin d'ici, à l'Institut Curie, par Marie Curie et Antoine Lacassagne, qui a eu la chaire de cancérologie du Collège de France à la fin des années 50. Il y a de nombreux types de rayonnements, nombreuses indications cliniques. Et au fond, pendant assez longtemps, la radiobiologie s'est surtout concentrée sur les dégâts faits à l'ADN, puisqu'on sait en fait que les radiations sont capables, de manière assez efficace, de casser l'ADN. Et donc, c'est pendant longtemps, ça a été une facette importante, pour ne pas dire principale, de l'étude des rayonnements. Et puis, des travaux plus récents ont insisté également sur le stress oxydant, puisque ces rayonnements dans la cellule sont capables d'induire des radicaux oxygénés, et que ces radicaux oxygénés, on va le voir, participent très probablement à leurs effets biologiques. Et on va voir qu'il y a des indications maintenant assez fortes que cette modulation des radicaux oxygénés participe à la réponse clinique. Par ailleurs, il peut y avoir des effets épigénétiques durables, des effets à distance mal compris, avec peut-être une composante immune qui intervient dans la réaction antitumorale. Et puis, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler cette année, récemment, des corrélations cliniques fortes montrant qu'il existe une relation étroite entre l'état d'activation de NRF2 et la sensibilité à la radiothérapie dans des situations cliniques, c'est-à-dire chez des patients. En gros, que des patients qui présentent des mutations de KEAP1 ou de NRF2 sont moins radiosensibles que les autres. Ce qui, évidemment, a des implications fortes au niveau de la manière dont on conçoit l'efficacité de ce traitement et bien sûr aussi de la prise en charge de ces patients. Donc ça a été essentiellement étudié dans des situations où ces mutations de KEAP1 ou de NRF2 sont les plus fréquentes, c'est-à-dire essentiellement les tumeurs pulmonaires ou les tumeurs ORL. Et au niveau biologique, ça a été rapporté dans des travaux très, très brillants, dont je vais vous montrer juste un résumé publié dans Cancer Discovery, montrant que l'on est capable de reproduire des modèles de tumeurs ORL en inactivant P53 dans des cellules souches des bronches ou de la trachée, qu'on va avoir formation de tumeurs, que ces tumeurs sont accélérées quand on a une inactivation conjointe de KEAP1, donc activation de la voie NRF2 dans les mêmes cellules. Et la force de ces travaux, c'était de montrer au fond que les cellules doublement mutées sont profondément résistantes au stress oxydant et à la radiothérapie. Et que par ailleurs, des situations où on va avoir une déplétion du glutathion vont restaurer en partie la sensibilité à la radiothérapie. Et on finira en montrant que, effectivement, dans des séries cliniques, l'inactivation de la voie, l'activation de la voie NRF2 est en fait prédictive de l'évolution, c'est-à-dire de la résistance au traitement chez les patients, ce qui traduit donc, à mon avis, là encore, un changement de paradigme pour dire qu'il n'y a pas seulement les dégâts à l'ADN, ce qui ne veut pas dire que les dégâts à l'ADN n'ont pas d'importance, mais il n'y a pas que ça, et le contrôle du stress oxydant fait également partie des modes de réponse à ce type de thérapeutique. Alors, quelques données expérimentales tirées de ce papier de l'équipe de Stanford. Donc, ils partent de cellules souches de trachée et font ensuite de la culture clonogénique, donc en milieu semi-solide, dans lesquelles la croissance de ces cellules souches va se manifester par le nombre et la forme de ces petites sphères, et en particulier le fait qu'on a, dans des situations normales, vous voyez, une cavité bien lisse, bien délimitée, qui traduit la croissance normale de ces cellules souches. Et puis, quand on a inactivé KEAP1 et P53, maintenant, vous voyez que ces cavités n'en sont pas. En fait, les cellules poussent de manière anarchique. Elles vont remplir la lumière de cette microstructure, traduisant donc la croissance anormale et désordonnée de ces cellules. Donc, la première chose, c'est qu'il y en a plus, avec la double mutation. La seconde, c'est qu'elles sont anormales puisqu'elles vont remplir la lumène, normalement, la cavité centrale. Et quand on regarde maintenant la croissance, on voit que la croissance, avec la double inactivation de P53 et de KEAP1, donc notée ici KP, elles vont pousser beaucoup plus vite. Elles vont pousser beaucoup plus vite et elles vont être capables d'induire beaucoup plus de métastases à distance quand on les insère chez des animaux. Et puis, c'est probablement là la diapo la plus importante. On va avoir une réponse au stress oxydant sous la forme d'une réponse à l'oxygéné qui, avec la simple mutation de P53, conduit à un arrêt de la croissance qui est particulièrement nette ici. Mais si on a une inactivation de P53 et de KEAP1, donc si la voie NRF2 est constamment allumée, on va avoir cette fois-ci une insensibilité complète à ce traitement par l'oxygéné, ce qui montre bien en particulier que cette réponse ne dépend pas de P53, puisqu'en fait P53 est muté dans les deux cas de figure, enfin absent dans les deux cas de figure, c'est donc une autre voie qui est responsable de la réponse. Et donc ça, c'est une illustration particulièrement nette et importante de cette résistance au stress oxydant. Donc là, on était dans des situations de réponse à des agents chimiques, et toujours en utilisant ce même critère de croissance clonogénique en milieu semi-solide, les auteurs ont regardé la réponse à des doses croissantes de radiation, et lorsque P53 est le seul à être inactivé, ces petites proliférations donc de cellules souches trachéales vont directement s'arrêter de pousser avec des doses modérées de radiation. Et vous voyez que cette fois-ci, si on a inactivé en plus KEAP1, on a une résistance complète. Ce qui veut dire donc que la réponse à l'effet antiprolifératif des radiations dans ce modèle-là est dépendante, non pas de P53, non pas de dégâts à l'ADN, mais est vraiment dépendante du stress oxydant. Et effectivement, ils ont pu utiliser ensuite les deux astuces habituelles, soit de rajouter du N-acétylcystéine, et on voit que avec le N-acétylcystéine, on va sauver un certain nombre de ces sphères de cellules souches. Et par contre, il ne se passe rien lorsqu'on a l'inactivation de KEAP1, donc traduisant bien l'effet de protection par le stress oxydant dans ce système-là. Et puis, une autre astuce utilisée par ces auteurs a été d'utiliser l'inhibiteur de la pompe qui permet d'internaliser la cystéine à l'intérieur de la cellule, hein, ce fameux système X dont on parlait tout à l'heure. Ce système X, qui est fortement surexprimé dans les doubles mutants, va induire une sensibilité à la sulfasalazine, donc un antibiotique qui inhibe ce système d'import, qui va conduire à une perte forte de clonogénicité en présence de la double mutation. Bon, probablement les travaux les plus importants de cette étude, hein, ce sont les travaux cliniques dans lesquels, dans le premier papier, donc, ces auteurs ont regardé chez ces patients traités par radiothérapie est-ce qu'il y avait une influence du statut KEAP1 NRF2 sur la réponse locale, qui va traduire la réponse, puisqu'il s'agit d'un traitement loco-régional, évidemment l'absence d'efficacité du traitement va se manifester par une rechute locale, et vous voyez qu'il y a une différence considérable en présence de mutations touchant à l'activation de la basale de la voie NRF2, on a beaucoup plus de rechutes locales dans deux séries cliniques différentes. Et ces travaux ont été poursuivis quelques années après par la même équipe qui montre sur des cohortes cliniques différentes exactement la même chose, que là encore l'inactivation de ce système de contrôle est associée à des rechutes cliniques beaucoup plus importantes. Alors ce que ce travail qui est assez complexe, c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas vous le présenter, montre, c'est qu'en fait le statut de la voie NRF2 n'est pas facile à déterminer, parce qu'en particulier il peut exister des mutations de KEAP1 qui ne sont pas associées à une stabilisation de NRF2, et donc il faut arriver par des astuces de biologie cellulaire et de biologie moléculaire, de comprendre quelles sont les mutations importantes et quelles sont les mutations qui ne sont pas importantes. Mais si on se limite aux mutations fonctionnelles, on voit des réponses, des différences extrêmement claires, et là aussi uniquement sur la rechute locale après radiothérapie. Et de manière importante, ces mêmes travaux ont montré que maintenant, si on regarde des patients qui ont été traités uniquement par des approches chirurgicales, eh bien là, il n'y a pas de différence, ce qui veut dire que ce n'est pas que la tumeur est intrinsèquement plus agressive, c'est que l'agressivité, si j'ose dire, son pouvoir pathogène est la même, simplement elle est résistante à la radiothérapie. Et c'est pour ça qu'on va avoir des rechutes. Et ces travaux, également, on ne va pas rentrer dans les détails, on en parlera peut-être l'an prochain, montre qu'en fait, dans cette situation-là, il y a une dépendance forte à la glutamine qui va permettre de favoriser la cystéine et de contrôler les ROS, et que donc on pourrait imaginer utiliser des inhibiteurs de l'import de l'activation de la glutamine, tel que celui qui est représenté ici, qui dans ces modèles cellulaires va effectivement avoir un effet d'activation synergique avec la radiothérapie. Alors, est-ce que tout ça c'est vrai dans la vraie vie, et quels sont les impacts possibles? Et en fait, c'est des travaux publiés il y a une vingtaine d'années qui ont eu pas mal d'impact à l'époque, qui ont cherché, encore une fois, à une époque où on pensait que les antioxydants étaient bons dans tous les cas de figure, et sachant qu'il y a une partie de la toxicité des rayonnements qui vient des antioxydants, eh bien, cette équipe canadienne a étudié de manière prospective et randomisée des patients qui allaient être traités pour des tumeurs ORL par de la radiothérapie, en leur donnant des fortes doses d'antioxydants, de très fortes doses d'antioxydants, en l'occurrence c'était de la vitamine E, et on cherchait à voir quel pouvait être l'impact de ces traitements antioxydants. Et en fait, ce dont ils se sont aperçus, c'est que l'impact était négatif. C'est-à-dire que des patients ici complémentés avec des antioxydants correspondent à la ligne noire. Et donc, on a aggravé en fait le pronostic de ces patients. Et dans des détails, sur des séries, vous voyez qu'ils ne sont pas négligeables, hein, puisqu'il y avait 500 patients qui ont été étudiés. Et ils ont pu montrer qu'il y avait à la fois une modulation des rechutes, donc le même cancer qui repousse, ou alors chez des patients qui sont en général des fumeurs, il y avait un risque de deuxième cancer. Il montrait qu'il y avait également une augmentation du risque de deuxième cancer. Donc vous voyez des études qui rappellent un petit peu celles de la prévention des cancers par la vitamine E et les bêta-carotènes chez les grands fumeurs. Là, ce n'est pas chez des grands fumeurs, c'est chez des gens qui ont déjà des tumeurs et qui vont être traités par de la radiothérapie. Un impact qui n'est pas noir et blanc, mais qui n'est quand même pas négligeable sur la formation des tumeurs. Et donc, cette étude a donné naissance à beaucoup de commentaires, de recommandations, et en particulier aux États-Unis, où la prise d'antioxydants comme complément alimentaire est quelque chose d'extrêmement fréquent, eh bien, en disant qu'il ne faut pas jouer avec ce genre de produit dans le contexte du traitement du cancer. Alors, il y a quand même aussi des messages d'espoir, et ça, c'est une autre étude publiée dans Cancer Discovery il y a peu de temps, qui, là, est une étude non randomisée, mais dans un contexte, si ma mémoire est bonne, oui, de mélanome traité par des immunothérapies, eh bien, les auteurs ont cherché à voir, au fond, parmi les patients, quels sont ceux qui, de leur propre initiative, prenaient des fortes doses d'antioxydants, et savoir si ces patients qui prenaient ces compléments alimentaires avaient une survie différente des autres. Et la réponse a été oui, mais cette fois-ci dans le bon sens. C'est-à-dire que dans ce type de traitement, tout à l'heure on était sur de la radiothérapie, maintenant on est dans des prises en charge par l'immunothérapie, et bien vous voyez qu'il y a un bénéfice clinique qui est non négligeable, avec en plus probablement l'apparition d'un plateau donc de guérison possible. Et donc ceci montre que le contexte est essentiel, il faut savoir de quelle maladie on parle, de quel type de traitement on parle, et on peut imaginer, et ça évidemment c'est un message qui est porteur d'espoir, parce que suivant les indications, ça veut dire que de manipuler sur ce stress oxydant peut avoir des impacts bénéfiques dans certaines conditions, à condition que ces conditions soient évidemment bien déterminées. Et sans rentrer dans les détails, ce qu'ils ont pu montrer cette fois-ci chez la souris, c'est qu'en fait, on va améliorer beaucoup la fonction des cellules dendritiques, et que l'amélioration de la fonction des cellules dendritiques par ces antioxydants va contribuer à une bien meilleure efficacité de l'immunothérapie. Voilà, écoutez, c'est la dernière diapo que je voulais partager avec vous. Donc, j'espère que ce cours vous a convaincu qu'au fond, le stress oxydant, les radicaux dérivés de l'oxygène jouent un rôle important, aussi bien dans la biologie de la tumeur, dans son évolution spontanée, que dans la réponse à des traitements, et surtout à des traitements multiples. Et on a vu qu'il y avait, au fond, des tas de traitements anticancéreux dont, je vous rappelle, que la plupart ont été déterminés, identifiés sur des bases empiriques, et que donc ces traitements anticancéreux historiques, assez souvent, ont un pouvoir de modulation du stress oxydant, et que cette manipulation du stress oxydant joue un rôle dans la réponse thérapeutique. Je vous ai montré aussi que ces effets peuvent être opposés suivant le type de tumeur, suivant le type de traitement auquel on s'intéresse. Et ceci implique, comme toujours, eh bien, en fond, de faire de la science, de la science à la fois fondamentale, de la science translationnelle, pour comprendre sur des séries cliniques, au fond, quels sont les impacts possibles, avec une difficulté que j'ai soulignée dès la toute première diapo de ce cours, en disant que le stress oxydant, ben, c'est pas facile à étudier dans la vraie vie. Chez les patients, on ne sait pas encore très bien comment faire. On sait faire quand c'est lié à des mutations, on sait faire quand il y a des mutations de KEAP1, quand il y a des mutations de P53, mais ce n'est pas la totalité des cas, il y a d'autres systèmes qui sont impliqués, et d'arriver à se faire une idée du niveau de stress oxydant dans ces tumeurs reste aujourd'hui encore techniquement très complexe, ce qui veut dire qu'il y a encore de la recherche à faire. Et on peut imaginer que finalement d'avoir des photos précises chez les patients de ce qu'est l'état de ce stress oxydant, eh bien, devrait permettre à moyen terme de créer des combinaisons thérapeutiques qui tiennent compte de ce paramètre absolument essentiel de la vie d'une tumeur et de sa réponse au traitement. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours et j'espère vous retrouver l'an prochain pour ce qui sera probablement un approfondissement du cours de cette année. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.